Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors les journaux, magazines et autres revues anglo-saxonnes publient ordinairement dans leur dernier numéro de l'année la liste des livres qui ont paru les plus intéressants à leur rédaction, Brice.
Oui, et c'est souvent révélateur des orientations de ces publications. L'éditorialiste du New York Times, David Brooks, a décidé depuis un certain temps de publier sa propre liste des articles qui l'ont frappé au cours de l'année écoulée. Alors David Brooks, probablement c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais bon sens, et bien sûr, c'est lui qui a inventé le mot « bobo » il y a 20 ans, les fameux bourgeois bohèmes. Mais David Brooks vaut beaucoup mieux que ça, et beaucoup mieux d'ailleurs que ce que dit de lui en français sa fiche Wikipédia qui a été rédigée, comme c'est trop souvent le cas, par des gens qui le détestent. Alors David Brooks commence par déplorer le recul de la liberté d'expression aux États-Unis. James Robert Flynn, qui a dirigé pendant plus de 30 ans le département de sciences politiques de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, vient de mourir. Alors même que son livre « In Defense of Free Speech », en défense de la liberté d'expression, a été refusé in extremis par son éditeur Emerald. Le directeur a estimé qu'il risquait, je cite, de susciter des inquiétudes car il traite de sujets sensibles tels que la race, la religion et le genre. Mais la fameuse éditorialiste britannique féministe Julie Burchill vient de subir exactement le même sort au Royaume-Uni. Son livre Welcome to the Woke Trials, Bienvenue au procès woke, a été refusé par son éditeur. Le prétexte, elle aurait tenu des propos islamophobes sur Twitter. Julie Burchill avait simplement mentionné l'âge de l'une des épouses de Mahomet. Les propos tenus par Julie ont outrepassé ce que nous estimons acceptable en matière de race et de religion, a déclaré le patron de Little Brown, l'éditeur en question. Mais n'est-ce pas parce qu'elle s'attaque au mouvement woke que Burchill a été censurée?
Et Brice, la montée de l'intolérance a été dénoncée par une lettre ouverte sur la justice et le débat ouvert, publiée en juillet par le magazine Harper's.
Oui, de nombreux signataires. Elle a démontré que la liberté d'expression conservait de nombreux défenseurs parmi les intellectuels américains. Parmi eux, Brooks cite en particulier Jonathan Roach. C'est un essayiste connu pour avoir été un des premiers défenseurs du mariage homosexuel dans un livre paru en 2004. Et bien, dans une interview audio mise en ligne par l'excellent site Reason Magazine, Roach critique ce qu'il nomme l'argument de la sécurité émotionnelle, invoqué dorénavant par les militants woke pour exiger l'interdiction de tout ce qui leur déplaît. C'est un argument incompatible avec la société ouverte, dit-il. L'idée, c'est qu'une blessure émotionnelle cause une sorte de préjudice comparable à une blessure physique et que c'est donc une violation des droits. Mais le problème, c'est que le standard pour en évaluer la gravité est purement subjectif. Cela permet de censurer et d'annuler, comme seul, toute forme de critique et d'attribuer à la science des violations des droits de l'homme, fin de citation. David Brooks recommande aussi un essai de Hilton Holtz, paru dans le New Yorker sous le titre « My Mother's Dream for Her Son and All Black Children », un titre qui constitue une évidente réplique au fameux livre de Barack Obama « Dreams of My Father ». Holtz y revient sur les émeutes et les pillages auxquels il a assisté et il s'interroge sur leur signification. Ce n'est pas qu'ils essayaient de devenir des hommes, écrit-il, des hommes ils l'étaient déjà, mais afin d'obtenir le poids qu'ils percevaient chez les hommes blancs, il leur fallait rejeter à un certain degré le silence que leur avait enseigné leur mère. S'ils allaient mourir, ce serait mourir en criant. David Brooks recommande également l'étude publiée par Brandon Vaidyanathan, qui s'appelle « Systemic Racial Bias in the Criminal Justice System is not a Myth ». L'auteur y démontre, faits et chiffres à l'appui, que le racisme systématique de la justice aux États-Unis n'est pas un mythe, comme le prétendent en ce moment certains auteurs conservateurs. Brooks confesse avoir été convaincu par le style, je cite, « calme et méthodique » du texte qui, dit-il, ne cherche pas l'outrage. Il recommande aussi un texte bouleversant écrit par une infirmière en première ligne contre le Covid, qui, rappelons-le, a déjà tué 360 000 personnes aux États-Unis et qui s'appelle « The Shape of the Shore », la forme du rivage. Rana Aoudish, son auteur, écrit « Je ne me reconnais plus, je ne sais plus où je suis, j'empêche une mère d'approcher son bébé, il me faut la traiter comme si elle était une menace pour son propre enfant ». Et sur le sujet du Covid encore, le grand sujet de l'année, tout de même, Brooks recommande un papier paru sur The Atlantic, dans la revue The Atlantic, qui s'appelle « How Pandemic Defeated America ». Son auteur, Ed Yang, y analyse le fiasco de l'administration Trump dans la gestion de l'épidémie. Il écrit « Les tests de diagnostic étaient faciles à fabriquer. C'est pourquoi l'incapacité des États-Unis à en créer paraît inconcevable. » Et il écrit aussi « Les laboratoires privés ont été étranglés par la bureaucratie et cela doit nous rappeler quelque chose. »
Merci Brice Couturier, absolument, on voit un peu la comparaison. Merci beaucoup Brice pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, également sur l'application Radio France. On vous retrouve demain.